L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Alors maintenant, si vous êtes prêts, on va aller à l'enseignement de la parole de Dieu concernant les clés de votre percée. Amen. Savez-vous que Dieu veut nous donner des percées dans notre vie? Amen. On sert un Dieu qui nous a fait des promesses. Et si Dieu a fait des promesses à son peuple, c'est parce qu'il veut que son peuple reçoive les promesses. Dieu, c'est pas un Dieu qui dit « je veux te donner quelque chose » ou « voici une provision, mais c'est impossible pour toi de l'avoir ». Dieu, c'est pas un mauvais père. Mais Dieu, quand il fait une promesse, c'est pour qu'on puisse l'avoir. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Ça, c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Et Dieu veut qu'on puisse expérimenter des percées dans nos vies à tous les niveaux. Alors ce matin, on va pencher nos têtes, on va remettre ce temps au Seigneur et on va s'attendre que Dieu va nous donner des révélations de sa parole. Seigneur, on vient devant toi encore une fois. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui est ici parmi nous. Je te remercie, Seigneur, pour les révélations, les rémas que tu nous donnes cette semaine. Je te remercie même pour les groupes vie qui commencent cette semaine et comment la révélation va continuer même les mardis, mercredis, vendredis soir. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant et tu souffles sur ta parole pour nous révéler le chemin qu'on doit suivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, c'est une étude aujourd'hui un petit peu dans la vie de David. Vous savez, David est devenu le roi en Israël, mais avant d'être roi, David a vécu des choses. Et puis, c'est important de voir le cheminement de quelqu'un avant que la personne arrive à une place élevée. Et voir comment est-ce que Dieu a travaillé dans sa vie afin que cette personne-là puisse vivre des percées tout au long de sa vie pour arriver à cette place-là. Souvent, on dit, moi, j'aimerais ça être en haut, j'aimerais être là-bas. Mais est-ce qu'on est prêt à passer par les étapes que la personne a passées pour être là? Bien, on peut dire oui, amen. On veut suivre le chemin de Dieu pour notre vie, pour arriver à la destination. Et j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui d'avoir des rêves. Peut-être que vous en avez déjà. Et de garder ces rêves-là, de peut-être même fermer vos yeux et vous imaginer, ça c'est mon rêve, mon plus grand rêve, c'est ça, telle affaire. Ce matin, si vous avez des rêves, je veux vous encourager à garder ces rêves-là jusqu'à temps que vous puissiez les posséder, jusqu'à temps que vous arriviez. Peut-être votre rêve, c'est de voir vos enfants de sauver. Savez-vous que Dieu veut vous donner ce rêve-là? Votre enfant qui ne connaît pas Dieu encore, bien Dieu veut sauver votre enfant. Ça peut être une percée pour vous de dire « mon enfant a été sauvé ». Ça devrait être une percée, certainement. Peut-être votre rêve, c'est d'être guéri. Peut-être vous êtes malade dans votre corps et votre rêve, ce serait « si seulement un jour, je pourrais être guéri de cette chose ». Bien, Dieu veut vous donner cette percée-là dans votre vie également. Savez-vous ça? C'est peut-être ça votre rêve. Peut-être c'est d'avoir de l'harmonie dans vos relations, dans votre famille, à votre travail. Peut-être c'est ça votre rêve. Peut-être c'est d'être à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est de gagner la loterie, je ne sais pas. Mais ça, je ne peux pas vous dire que c'est la volonté de Dieu. Dieu, il prendra soin de vous comme il voudra. Mais tout ça pour dire que Dieu dépose dans nos cœurs des rêves. Et Dieu veut qu'on puisse les saisir par la foi quand ils sont bibliques, certainement. Rêvez pas d'avoir le mari d'un autre. Rêvez pas comme ça, ça ne donne rien. Dieu ne veut pas vous donner ce rêve-là. Ce n'est pas un rêve de Dieu. Mais les rêves de Dieu qui sont dans votre cœur, Dieu veut vous les donner. Parce que Dieu a promis qu'il va vous donner le désir de vos cœurs. Amen. Puis une des choses, je veux vous inviter à tourner dans 1 Samuel chapitre 16 et le verset 7. Souvent, on ne se voit pas comme Dieu nous voit et on se voit en petitesse. Comme si mon rêve est tellement grand que c'est impossible que je vive ce rêve-là. Moi, je suis trop petit. Bien, dans 1 Samuel 16 et le verset 7, ici on connaît le contexte. Samuel s'en allait trouver le prochain roi d'Israël. Il était pour lui donner l'onction d'huile. Et là, Samuel, un prophète de Dieu, est en train de voir les frères de David un après l'autre. Et puis pensant toujours, OK, ça doit être lui, ça doit être lui. Il est grand, il est impressionnant, tout ça. Mais Dieu a dit au verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à votre cœur aujourd'hui. Il ne regarde pas à votre compte de banque, voir est-ce que je vais faire un miracle pour lui, est-ce qu'il est assez riche, ou est-ce qu'il est assez beau, ou est-ce qu'il est assez gentil, ou est-ce que les qualités que je recherche pour me servir de lui. Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Ce n'est pas votre apparence physique, il regarde votre cœur. Est-ce que le cœur de cette personne-là est pleinement dévoué à Dieu? Si votre cœur est totalement engagé à Dieu, Dieu peut se servir de vous. Mais ça prend un engagement. Ça prend un engagement. Vraiment, il faut être radical dans notre engagement et aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas prêt à m'aimer plus que vos parents, vous n'êtes pas digne de moi. Vous ne pouvez même pas être mon disciple. Ça veut dire qu'il faut aimer Dieu passionnément de tout notre cœur. Alors, des clés que le Seigneur veut nous donner ce matin concernant la vie de David, une des premières choses que j'aimerais vous laisser savoir, c'est que Dieu nous appelle à lui remettre nos dons à son service. On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 16 et le verset 14. 1 Samuel chapitre 16 et le verset 14, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Tout de suite, je vais arrêter là et vous allez vous poser la question « Un mauvais esprit venant de l'Éternel, mais qu'est-ce que ça veut dire? » Vous savez qu'à l'époque, Saül s'était rebellé contre Dieu. Et puis là, il y avait un jugement pour ça. Donc, Dieu a permis qu'un mauvais esprit vienne sur Saül. Mais est-ce que c'est un mauvais esprit qui venait du ciel, de Dieu? Non, ça veut dire que Dieu a permis que l'esprit soit là en tant que jugement. Donc, c'est juste une chose qu'on doit comprendre. Et la façon que c'est présenté dans l'Ancien Testament, souvent, puisqu'on comprenait que Dieu est souverain, on dit souvent que Dieu fait des choses quand en réalité Dieu permet des choses. Quand vous lisez l'Ancien Testament et vous lisez des choses qui semblent être contre la nature de Dieu, comprenez que la façon qu'on s'exprimait dans l'Ancien Testament, souvent ça se référait à une permission de Dieu. OK, vous comprenez? Parce que Dieu est souverain et les Juifs parlaient comme ça, ils comprenaient que tout était de Dieu, et même les mauvais esprits pouvaient venir de Dieu, mais en fait, c'était plus une permission que Dieu permettait. Comprenez? Amen. Donc, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant ou permis de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. » Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera venu sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Donc ici, on voit que le roi Saül, qui avait fait une révolte contre Dieu en étant dans la désobéissance, donc, on connaît l'histoire ici de Saül. Et là, il était tourmenté par un mauvais esprit. Les serviteurs du roi ont dit, on connaît un homme qui va pouvoir venir jouer un instrument pour te soulager. Un homme qui était loin du Saint-Esprit. Et quand il jouait la harpe, bien, le mauvais esprit quittait. Parce que dans la présence de Dieu, les démons n'aiment pas ça rester là. Amen. Si vous êtes tourmenté dans votre maison, vous vivez des temps difficiles, louez le Seigneur. Répétez souvent le nom de Jésus dans votre demeure. Dites « Alléluia Jésus, merci Jésus, gloire à toi Jésus ». Puis quand vous dites le nom de Jésus, les démons fuient. Ça leur tape ses nerfs d'entendre le nom de Jésus. C'est vrai. Dites Jésus. Si vous êtes sur une condamnation où il y a l'ennemi qui vous souffle toutes sortes de mensonges, comme quoi vous n'êtes pas aimé de Dieu, toutes sortes d'affaires de même, dites « Merci Jésus pour ton amour ». Vous allez voir, l'ennemi va fuir. Faut revenir et employer le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et mais ici, on voit que, bon, finalement, les serviteurs de Saül savaient que David, il avait rencontré David qui jouait la harpe, et ce jeune homme-là, loin du Saint-Esprit, pouvait venir faire du ministère auprès de Saül pour qu'il soit relâché de cette attaque démoniaque. Et dans 1 Samuel, verset 16, chapitre 16 et le verset 21, il est écrit « David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. » Voyez-vous, un don, le don de musicien, a ouvert une prochaine porte, cette fois-ci pour devenir un serviteur du roi Saül, pour être un porteur de ses armes. Il y en a qui vont dire, ah, mais c'est juste le rôle d'un serviteur. Mais réalisez ceci, avant de devenir roi, David était un serviteur. Amen. Et quand nous servons le Seigneur, nous sommes en préparation pour vivre d'autres choses plus tard. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier de plus grandes choses. Amen. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on va rester dans les petites choses longtemps. Et on va tourner dans le désert longtemps. Mais si on est fidèle et on peut vivre une graduation d'une chose à une autre, on va vivre plein de bénédictions de la part de Dieu. Donc ici, on voit une des premières clés pour avoir une percée dans notre vie spirituelle, c'est de semer le don que Dieu nous a donné. Vous avez tous un don. Si vous gardez ce don-là et vous ne faites pas fructifier, c'est malheureux, vous êtes le seul à en bénéficier. Mais quand vous avez reçu un don de Dieu et vous le mettez au service de Dieu, bien Dieu est béni, vous êtes béni et le peuple de Dieu est béni. Donc, on est tous contents et bénis ensemble. Amen. Et vous savez, des fois, ça ne nous tente pas de semer notre don. Est-ce que ça se peut que des fois, ça ne nous tente pas de semer notre don? On veut le cacher, on veut l'enterrer. Ou des fois, ça nous dit, ben ça me tente pas de faire telle chose, je suis gêné, ça me tente pas carrément. Mais savez-vous, des fois, Dieu va nous appeler à marcher sur nos émotions et de faire ce qui nous ne tente pas. Amen. Des fois, là, savez-vous, votre percée, c'est le moment que vous prenez un pas par la foi et vous faites ce qui vous tente pas. Je vais vous raconter l'histoire de Evelyn Roberts, qui est maintenant avec le Seigneur, l'épouse de l'évangéliste Oral Roberts, qui lui aussi est auprès du Seigneur. Bien, Evelyn et Oral Roberts ont perdu, je crois, c'est leur fille dans un accident d'auto. Et puis, bon, il y a eu cet accident-là, sa fille, je pense, les enfants, toute la famille sont décédés. C'était tragique, horrifique comme scénario, n'est-ce pas, de vivre quelque chose semblable. Et elle, dans sa peine, dans son chagrin tout à fait normal, le Seigneur lui a dit, « Est-ce que tu es prête à semer dans ta douleur? » Semer quoi? De l'argent? Non, ce n'est pas une semence dans l'argent. C'est une semence dans sa blessure d'aller encourager d'autres personnes. Le Seigneur lui a dit, « Va-t'en à la télévision et va encourager les gens qui sont dans le découragement. » On dirait, « Ben là, voyons. » Quand on vit une peine comme ça, on a le droit d'aller se retirer et aller pleurer tout seul dans notre chambre? Oui, on a le droit de le faire. Mais des fois, Dieu va dire, prends un pas par la foi et va semer dans ton temps difficile. Alors, Evelyn Roberts est allée à la télévision. Sa fille venait de se faire tuer avec son mari et ses enfants. Et puis, elle est là à la télévision et elle a pris la décision de semer dans sa douleur pour encourager les gens qui vivaient des douleurs. Afin de recevoir sa guérison, elle a semé dans la guérison des autres. Amen. Alors, peut-être Dieu va vous appeler à faire des dons de votre personne comme ça. Peut-être vous vous dites, ben moi, je m'ennuie beaucoup dans ma vie. Je suis très seul. Est-ce que peut-être Dieu vous appellerait à aller semer dans la vie de quelqu'un qui s'ennuie? Si vous vous ennuyez, trouvez quelqu'un qui s'ennuie et allez visiter cette personne-là. Allez semer de votre temps dans la vie d'une personne qui s'ennuie. Une personne qui est découragée, une personne qui est triste. Mais là, vous dites, ouais, ben moi, je suis triste, l'autre personne est triste, on va être triste ensemble. Non, vous choisissez d'avoir la joie du Seigneur qui coule à travers vous et vous allez encourager la personne qui est découragée pendant que vous êtes découragé et vous allez être encouragé. C'est de même que ça marche. C'est vrai. On va semer de nous-mêmes. Peut-être vous êtes malade. Peut-être Dieu vous appelle à aller faire du ministère auprès de quelqu'un qui est malade. Et en faisant ce ministère-là, vous allez recevoir votre guérison. C'est des étapes qu'on peut prendre pour vivre des percées dans notre vie. Mais si on est gouverné par notre raison ou si on est gouverné par nos sentiments, les percées vont être toujours, un jour, on va vivre des percées. Mais c'est quand on se prend en main puis on dit, les percées sont pour moi, les promesses de Dieu sont pour moi et je vais prendre des pas par la foi là-dedans. C'est vraiment vrai. Amen. Alors, il faut vraiment saisir les opportunités du Seigneur dans nos vies. Parce que Dieu va envoyer toujours des gens dans le besoin. Vous allez côtoyer des gens qui vivent ce que vous vivez souvent. Et là, le Seigneur vous donne une porte ouverte et dit, voici mon opportunité, va semer dans sa vie. Que ça vous tente, que ça vous tente pas, vous le faites et le Seigneur vient vous toucher. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je veux recevoir. C'est correct, mais vous allez recevoir de Dieu en donnant aux autres. Savez-vous, des fois, il y a des gens qui viennent à l'église, c'est, Je vais venir à l'église voir est-ce que j'aime bien l'enseignement, est-ce que ça me bénit. C'est correct de vouloir être béni. On veut tous être bénis, n'est-ce pas? Moi aussi, j'irais dans une église où je serais béni. Je voudrais être béni, je ne voudrais pas être maudit. Hein? C'est normal. Mais souvent, notre approche vers l'église, c'est est-ce que je vais recevoir, mais des fois aussi, il faut penser, est-ce que je vais donner à Dieu? Est-ce que je suis dans une place où je peux donner mes dons à Dieu, lui remettre ce qu'il m'a donné? Il faut changer notre perspective nord-américaine qu'on est sauvé pour recevoir. Oui, Dieu donne, mais Dieu nous appelle aussi à lui redonner en retour. Quand l'Église de Jésus-Christ comprend ce principe-là, qu'on est sauvé pour donner, on est sauvé pour adorer Dieu avec notre vie, la vie religieuse n'existe pas parmi nous. C'est vraiment vrai. Parce que chaque personne, admettons, on offre des groupes vie, et puis vous dites, « Ouais, mais ça va me prendre une heure par semaine. » Je ne sais pas si ça me tente de côtoyer mes frères et mes sœurs pendant une heure. C'est à qui qu'on pense dans ce temps-là? Est-ce qu'on pense à nos frères et nos sœurs dans le besoin? À qui qu'on pense? À notre « je ». On pense juste à nous autres. Et là, on s'attend à vivre des percées dans notre vie chrétienne. Je comprends pas, ça va mal, je sais qu'il va mal. Mais depuis quand est-ce que vous avez donné à vos frères et à vos sœurs? Quand est-ce la dernière fois que vous avez donné de vous-même et vous êtes rendu serviteur? Dieu nous appelle à faire des dons. Et des fois, à l'église, on parle des dons, des dîmes et des offrandes. Absolument, amen. Mais ça, c'est juste une portion des dons. Dieu est occupé avec notre cœur. C'est ça, c'est là l'endroit le plus important. Dans Matthieu 23, versets 8 à 12, le Seigneur Jésus nous parle ici qu'on est appelé à être des serviteurs et d'avoir le cœur de serviteur. Je vais lire ici dans la Bible du Semeur, Matthieu 23, 8 à 12. Ça dit, « Ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. » Et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est chef, le Christ. Verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Amen. Vous voulez une percée? Devenez un serviteur. Amen. Et une des choses que le Seigneur nous appelle à faire comme serviteur de Dieu, c'est de faire des disciples. On va regarder ensemble dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 et le verset 8. C'est un texte qu'on va lire souvent quand on parle du salut. C'est le texte, moi, habituellement, que je vais employer quand je parle à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On parle du salut par grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, Dieu vous fait un don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous sommes tous convaincus que le ciel, c'est gratuit. Amen. On ne peut pas rentrer au ciel par nos bonnes œuvres. Mais le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire pour? Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous. Et l'œuvre numéro un, c'est d'aller faire des disciples de toutes les nations. Il y a des gens qui disent, ben, je ne connais pas mon appel. Moi, je connais votre appel. Votre appel, c'est de faire des disciples. Ouais, mais suis-tu appelé à être un évangéliste international ou un prophète international? Je ne sais pas aujourd'hui, mais on verra bien. Commencez à gagner des âmes et là, on verra. Comment on peut vous situer? Peut-être votre cœur, c'est plus pastoral, peut-être c'est plus évangéliste, mais vous êtes appelé à faire des disciples. Donc, ça, c'est le don numéro un. On veut vivre des percées dans notre vie personnelle, dans notre couple peut-être. Dieu nous appelle à faire toutes sortes de choses semblables, mais évangéliser, c'est la chose numéro un. Et évangéliser, la meilleure façon d'évangéliser, je vais vous dire, c'est pas par la télévision, c'est pas par le porte-à-porte, c'est toujours par amitié. C'est ça qui fonctionne le plus. C'est de connaître quelqu'un qui vous fait confiance et là, vous dites à la personne, « Sais-tu, hey, cet après-midi ou un matin, je vais faire une étude biblique, tu viendrais-tu chez nous prendre un café? On va regarder ensemble la Bible, j'ai des amis qui vont venir. » Oh, ben, c'est-tu vraiment religieux? Non, non, on n'est pas religieux, pas en tout. Nous autres, viens chez nous, on va te servir un café. Si tu n'aimes pas ça, tu peux t'en aller. Puis, ah, moi, OK. Puis là, ils vont venir, puis là, vous allez parler ensemble pendant une heure. C'est pas 6 heures. Vous ne demandez pas un engagement de 6 heures, une heure. Et là, vous faites ça ensemble, puis là, la personne, ah, moi, vous autres, vous vivez une paix, une joie. Vous avez vraiment quelque chose, vous autres? Ben oui, tu veux-tu l'avoir? Ben oui, tant qu'à ça. Et là, bingo, la personne est sauvée. C'est simple. Mais Dieu nous donne des stratégies faciles comme ça. Hein? Faites des disciples. Amen. Une autre chose, donc, on veut remettre nos dons au service de Dieu. Une autre chose qu'on veut faire, c'est remettre nos paroles de foi au service de Dieu. Moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie de David? Je vais vous lire des textes ici. Dans 1 Samuel, verset 17, verset 26, ça dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, en parlant de Goliath, et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Là, il est en train de poser une question comme ça. Ses frères ont dit à David, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, David dit, mais coudonc, je n'ai pas le droit de parler, moi. Vous pourrez lire l'histoire, là, dans 1 Samuel 17. Mais il n'y avait pas la crainte des hommes. Il disait qu'est-ce qu'il pensait. Mais c'est qui va enlever la gêne, l'opprobre, l'humiliation au peuple d'Israël? Un incirconcis comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire un homme sans l'alliance de Dieu, qui n'a pas les promesses de Dieu. Lui, il va nous faire sécher le peuple de Dieu. On va tous être là, on va reculer dans la crainte à cause d'un seul homme qui n'a même pas l'alliance, les promesses de Dieu. Il est en train de chicaner ses frères. 1 Samuel 17, 31 à 33, ça dit, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta. » Savez-vous pourquoi? Parce que c'était des paroles différentes. C'était des paroles de foi. Si vous, dans votre vie, vous parlez, admettons, votre femme n'est pas sauvée, ou votre mari n'est pas sauvé encore, ou vos enfants, vous dites, « Ben moi, j'ai la foi, là. Oh, le Seigneur est vraiment en train de travailler dans le cœur de mes enfants. Le Seigneur est en train de travailler dans le cœur de ma femme. Elle s'en vient bientôt, Seigneur. Bientôt, elle va être à l'église avec moi. » Là, les enfants, vos enfants, vous entendez ça. « Hey, maman, papa, il dit que bientôt, tu vas être à l'église avec lui. » On répète ça, là, la belle-sœur. « Hey, tu vas aller à l'église bientôt avec ton mari. » Hey, j'ai entendu dire ça. Finalement, tout le monde répète les paroles de foi au lieu de maudire. Vous savez, des fois, on va dire, « Ah, rétrograde, et pas spirituel, elle lit jamais sa Bible. » Là, on est en train de dire la réalité. Dieu nous appelle à dire la vérité de la parole de Dieu, comme quoi la personne s'en vient dans le chemin de Dieu. C'est vrai, il faut vraiment faire comme David. Ici, il y avait des paroles de foi. Puis là, ça dit, je vais le relire. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher, qui le fit chercher. Bon, même, il y a eu l'invitation auprès du roi à cause de ses paroles. Verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu as un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. » Bon, là, la réalité. Hein, on pourrait se laisser décourager par la réalité. Bon, c'est vrai, je ne suis pas bien musclé. Regarde comment il fait 9 pieds. Savez-vous, Goliath, c'était 9 pieds. C'est grand. Moi, je fais 6 pieds, mais il rajoutait 3 pieds, là. Ça fait grand. On pourrait se laisser décourager. Mais là, David, il connaissait son adversaire. Il savait que c'était un homme qui n'avait pas l'alliance de Dieu. Donc, David n'avait pas de crainte. Au verset 34, il est écrit, « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Bon, mais c'était pas un gars efféminé, ça, David. Hein? On va vous dire, il avait pas trop peur. Il était déterminé dans ses tripes, et puis quand il avait son territoire protégé, il faisait. Verset 9. « Et il en sera de Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Bon, verset 17, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Je te crois pas vraiment. » Non. Il a dit, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Le roi a pu voir dans la voix et dans la conviction de David qu'il était convaincu en son Dieu. Êtes-vous convaincu dans votre Dieu aujourd'hui? Êtes-vous convaincu pour la percée dans votre vie personnelle? Peut-être c'est une percée dans vos finances. Peut-être c'est une percée contre la maladie. Peut-être c'est dans votre couple que ça va pas bien. Mais croyez-vous dans votre Dieu et dans les promesses de Dieu pour votre situation? Comme David, que personne ne peut décourager. Bien, moi, je crois qu'on doit faire ça. On doit être convaincu. Amen. Puis qu'est-ce que je vois aussi, là? Avant d'être roi, ben David se pratiquait sur les animaux. Hein? Il se pratiquait sur les animaux avant de prendre d'autres territoires. Une autre chose que le Seigneur nous appelle à faire, c'est demeurer dans l'onction pour notre vie. Vous voulez vivre des percées, essayez pas d'imiter des gens autour de vous. Quelqu'un qui a vécu une percée, puis dit « moi, je vais faire exactement comme lui », parce que peut-être Dieu a un autre chemin pour vous rendre à la même place. Dans 1 Samuel 17, 38 à 41, c'est « Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. » Verset 39, « David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Voyez-vous ici, là, moi, il y a tellement de choses qu'on voit là-dedans. Une des choses, David, il dit, je ne peux pas porter les vêtements de Saül, OK, parce que je ne suis pas habitué de porter ça, je ne suis pas accoutumé. David aussi, il avait une foi dans les expériences du passé. On peut voir, il y avait une foi, hey, Dieu m'a donné la victoire sur l'ours, Dieu m'a donné une victoire sur le lion. Donc, il y avait une foi développée. Il a pris des pas de foi, sûrement. Il a couru contre le lion et contre l'ours. Donc, il a développé sa foi. Avant de devenir roi d'Israël, Dieu avait développé sa foi avec des petites choses. Vous avez dit, ben un ours, c'est pas mal gros. Je vais dire oui, là. Mais Dieu va commencer avec des petites choses à développer notre foi. Donc, on veut remarquer ça. Je disais, hey, moi, je vais fidèle dans les petites choses. Puis, une autre chose qu'on remarque ici, ça dit, il a pris les 5 pierres polies, sa fronde, et puis là, c'est ça, il ne voulait pas porter les vêtements d'un autre, il ne voulait pas porter les vêtements de Saül. Il aimait mieux être lui-même, se présenter comme ça, parce que sa force n'était pas en lui, sa force était en Dieu. Remarquez, Goliath, sa force était en l'homme qui portait son bouclier, qui marchait devant lui. Mais nous, notre force n'est pas dans un bouclier d'homme, notre force est dans le bouclier de l'Éternel. Dans Psaume 3:3, ça dit, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Ça, c'est notre bouclier. Puis la raison pourquoi on peut avoir confiance dans les percées, c'est parce qu'on sert le Dieu des percées. On a le bouclier de l'Éternel. Le Psaume 18, verset 2, ça dit, « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Vous ne pouvez pas demander mieux. Vous ne pouvez pas demander mieux que d'avoir le Seigneur comme votre bouclier. Proverbe 30, verset 5. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Si vous recherchez un refuge, ben, cherchez à la bonne place. Cherchez en Jésus, il est votre bouclier. Donc, tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. On connaît l'histoire que finalement, David est allé à la guerre contre Goliath, et puis il n'a pas eu besoin des armées avec lui. Une seule pierre lui a donné la victoire. Amen. Donc, vous avez besoin une seule chose de la part de Dieu, et c'est la présence de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin d'une seule chose, la faveur de Dieu. Vous avez besoin de l'obéissance, et puis peu importe qu'est-ce que vous avez besoin, le Seigneur va vous donner au moment que vous prenez le pas par la foi. Amen. Donc, c'est tout bien et beau à savoir qu'on donne à Dieu nos dons, on donne à Dieu nos paroles de foi, on lui donne notre onction, on marche dans l'onction de notre vie. Mais là, après, il faut activer notre profession de foi. C'est pas assez de parler. Il faut activer notre profession de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut sortir de notre zone de confort. Il faut sortir de notre zone de confort si vous voulez vivre des percées dans votre vie. Si vous restez dans un lazy boy spirituel, vous allez relaxer longtemps, mais vous allez voir les percées passer à côté de vous et vous ne rentrerez pas dedans. Donc, moi, là, je veux pas m'asseoir dans un lazy boy spirituel. Je vais être debout et je veux marcher avec le Seigneur pour entrer dans ma destinée. 1 Samuel 17 et le verset 48, c'est mon dernier verset. Dites Amen. 1 Samuel 17, 48. J'aime bien que ça dit. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David s'assit à terre, s'est roulé à terre, s'est mis à pleurer et donné des coups de pied sur le sol parce qu'il avait peur. Non! Ça dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut. Il n'a pas eu peur. Il a dit, on est capable de les avoir, les Anglais. Hein? On va les avoir, les Anglais. Non, non. Non, on va l'avoir, les Philistins. On va l'avoir, Goliath. Amen. Regardez, ça dit, aussitôt, il faut entrer dans la saison. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose maintenant, attendez pas 2 mois. Dites oui maintenant. Quand l'école biblique va commencer, dites pas, oh, si vous savez que Dieu vous appelle, là, je ne sais pas d'être guidé par vos émotions, mais si Dieu vous dit, c'est le temps d'y aller, dites pas, ouais, ben là, toutes sortes de raisonnements. Si c'est Dieu vous dit là, dites oui, là. Parce que ça dit, aussitôt que le Philistin se met en mouvement, David courut. Si vous attendez 6 mois, ben peut-être que vous allez passer à côté des choses que Dieu en réserve pour vous. Amen. Il faut saisir les saisons de Dieu. L'autre chose, ne vous trompez pas du lieu de votre percée. Regardez, ça dit, David courut sur le champ de bataille. Si David était en bas de la montagne, il voyait Goliath s'en est, il dit, ben moi, je m'en vais courir dans cette direction-là, dans une autre direction. Il n'était pas à bonne place, il n'aurait pas eu la victoire. Donc, c'est important de connaître là où nous sommes appelés pour vivre nos victoires. C'est important. Parce que savez-vous, vous n'entrerez pas dans votre destinée dans n'importe quelle place. Il faut être là où Dieu vous appelle à œuvrer et à servir. C'est votre place, là où vous êtes positionné et votre destinée, ça a le rapport. Savez-vous ça? Ça a le rapport. C'est pour ça qu'il faut bâtir notre vie autour des choses qu'on est certain. Si vous êtes certain aujourd'hui que Dieu vous a appelé parmi nous, bien, gloire à Dieu, restez là, bougez pas. Dites pas, ben je vais aller à l'église baptiste d'à côté, eux autres, ils aiment bien Jésus, ou l'église pentecôtiste ici. Savez-vous, aimer Jésus, c'est pas ça qui a rapport. C'est votre appel. Où c'est que vous êtes appelé? Si vous êtes appelé en France, restez en France. Si vous êtes appelé en Afrique, restez là, c'est votre appel. Mais si Dieu vous appelle ici, à Bromont, par la foi, hein, on dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais si Dieu vous appelle avec nous, soyez sur votre bon terrain, sur le bon champ de terrain. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin et après, il y a eu la victoire. Parce que l'appel qu'on a, c'est relié avec l'endroit où on est. Ici, on prêche, on veut rejoindre la francophonie. Si c'est un message qui bouille dans votre cœur, et vous savez, ça c'est mon appel aussi, c'est de faire des disciples, c'est de voir des âmes de sauver. Dans ma région, vous êtes à bonne place, frères et sœurs. Si vous êtes convaincus que ça vaut la peine de rejoindre les gens par les médias, que c'est quelque chose, c'est pas passé de mode, bien, vous êtes à la bonne place. C'est tellement important, puis de rester stable. Je peux vous dire, il y a des temps d'émotion. Des fois, on est encouragé. Hein? Des fois, on a sorti des chaises ici. Hey, c'est encourageant. On a rajouté 10-15 chaises. Là, c'est encourageant. Tout le monde est dans le party. Hein? N'est-ce pas? On est encouragé quand c'est positif avec les yeux naturels. Mais admettons, il y a plus d'anges dans cette place qu'il y avait là 4 mois. S'il y a plus d'anges et le Seigneur est en train de relâcher plus d'onction dans cette place pour aller chercher le territoire que Dieu nous donne, on devrait se jouer encore plus. Amen. Parce que des fois, on est trop guidé par ce qu'on voit dans le naturel. Faut voir dans le spirituel ce que Dieu nous appelle à faire et à vivre et se réjouir à l'avance. C'est pour ça que quand j'étais à Bromont, au restaurant, puis je prêchais devant 12 personnes, je pouvais prêcher avec tout mon cœur et vraiment être dans la joie parce que je voyais dans le monde prophétique. C'est vrai. Je peux vous dire, sinon, là, j'aurais été découragé. Vous savez, quand j'étais en Alberta, on a vécu des temps bénis. Puis là, on revient au Québec, puis c'est un petit peu moins béni. On pourrait dire, ben là, qu'est-ce que j'ai fait là, quitter l'Alberta, quitter la TV, pour prêcher devant 12 personnes? Hein? On pourrait être terre à terre. Mais non, on se dit, ça, c'est juste 12 personnes, mais c'est 12 guerriers qui sont avec moi, qui sont en train de capter une vision, puis ensemble, on va aller chercher le Québec au complet. Ensemble, on va aller chercher la France. Ensemble, on va aller chercher l'Europe. Hein, ça dépend tout comment ce qu'on voit. Si on est guidé par le naturel, vous allez vous décourager, mais soyez pas découragés parce que moi, je suis pas. Moi, je crois qu'on est plus proche que jamais. Je vois le Seigneur travailler parmi nous, puis Dieu est en train de faire des choses. Même dans le monde naturel qu'on peut voir, Dieu est en train de préparer des choses. Donc, on reste super encouragé à chaque jour. Amen. Donc, devenez partenaire avec Dieu dans le miracle, l'action. Il y a un miracle qui est en train d'arriver ici, là. Dieu est en train de faire un miracle. Réalisez-vous le privilège qu'on a de faire partie d'un miracle de Dieu. Pensez-y, une radio qui vient d'être lancée, une école biblique qui commence, l'église que Dieu nous donne prochainement, des gens aussi qui s'en viennent nous aider. Dieu est en train de faire des miracles parmi nous. Est-ce que vous réalisez ça? On devrait dire à chaque jour de notre vie, merci Seigneur que j'ai le privilège d'être partenaire avec toi dans ce miracle. Un miracle que tu vas faire, Seigneur, parmi nous, sauver plein de gens autour de nous, que Granby va être visité, que Bromont va être visité. Merci Seigneur que j'ai le privilège de faire partie de cette armée-là. C'est un privilège. Si on commence à remercier le Seigneur, je vais vous dire, le Seigneur va être super béni. Il va triper avec nous autres. C'est vrai. On remercie le Seigneur, on professe la foi dans le projet de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu place devant vous aujourd'hui? C'est quoi le pas que Dieu dresse devant vous, dans votre champ, dans votre territoire? C'est quoi la chose que Dieu vous appelle à faire pour vivre votre percée? Je ne sais pas c'est quoi votre percée que vous avez besoin. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut avoir besoin dans notre vie. Mais demandez au Seigneur, c'est quel pas, Seigneur, que tu me demandes de prendre? Et quand vous prenez ce pas-là, attendez-vous que le Seigneur va venir comme il était avec David et il va vous donner la victoire sur vos ennemis. Endurez l'épreuve sans perdre la foi et faites taire votre chair. Fuyez vos goûts confortables. Si vous êtes confortable, je vous invite à ne pas être confortable. C'est pas un bon signe. Si vous êtes confortable, là, si vous venez à l'église ici, puis des fois, ça vous fait « ouch ». Alléluia! Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de grandir. Quand on grandit, des fois, les enfants ils ont mal aux genoux. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et les enfants grandissent, puis « ah, j'ai mal aux genoux, j'ai mal », parce qu'ils sont en train de grandir. Si vous êtes assis sur le Lazy Boy, puis vous venez, puis là, le pasteur dit « vous êtes beau, vous êtes fin, Dieu veut que vous soyez riche. Ah, amen! » Mais si c'était uniquement ça que le Seigneur, que votre pasteur prêchait, ça serait pas bon pour vous autres. Savez-vous ça? Ça serait pas bon. Mais si ça fait ouch des fois, ben, gloire à Dieu, on grandit ensemble. Donc, faites taire votre chair, fuyez vos goûts confortables pour ces goûts, mais qui prennent du terrain. Amen. Courez et ne perdez pas votre focus. Autant et aussi longtemps qu'on garde notre focus sur le Seigneur Jésus et sur les percées qui s'en viennent, on se réjouit. Amen. Moi, là, je suis rendu à la place dans ma vie chrétienne où je veux voir une église différente. Je m'attends vraiment de vivre des miracles. Je m'attends vraiment. Savez-vous, on a fait un DVD, Québec dans la gloire, qu'on va relâcher dans 2 semaines. OK? Moi, je pense que c'est le début, cette première réunion que le Seigneur m'avait mis à cœur en 2007, quand on est venu au cégep, dans l'autre salle, dans l'auditorium. C'était la première le premier pas que le Seigneur nous appelait à faire pour l'appel que Dieu nous donne dans cette région. Moi, je m'attends, on va faire une série de vidéos, là, comme vous connaissez les vidéos transformation. Est-ce que vous avez déjà vu ça, des vidéos transformation, où il y a eu plein de miracles? Moi, je dis, on va les vivre ici. Ils vont venir faire des reportages sur nous autres, et même nous, on va faire des reportages sur la gloire de Dieu en Estrie, du jamais vu auparavant. L'unité des pasteurs, hey, les pasteurs, ils s'aiment, puis les pasteurs prient ensemble. C'est bizarre, ça? Oui, c'est bizarre, puis on va le vivre. Des chrétiens dans d'autres églises qui s'aiment, qui se parlent, ils se poignardent plus dans le dos. Hey, c'est un miracle. Oui, on va le vivre ici. On va tous vivre ça. On va vivre, mais savez-vous, moi, je ne serais pas contenté de vivre une église du dimanche. Non, une vie chrétienne du dimanche. Moi, ma vie chrétienne, c'est à tous les jours. Il faut que ça ait un impact dans ma vie familiale, dans mes relations avec tout le monde. Mais le prix de tout ça, pour cette percée-là, le prix, c'est l'engagement. 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 Amen. Êtes-vous engagé aujourd'hui? Amen. Amen. On peut pencher nos têtes. Seigneur Dieu, je viens devant toi, Seigneur, puis je te remercie pour le privilège qu'on a, Seigneur Dieu, d'être partenaire avec toi dans ce grand champ missionnaire que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, que Goliath est déjà décapité. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes déjà les pierres dans nos mains. Les pierres polies dans nos mains, Seigneur Dieu, pour aller arracher des âmes perdues du royaume des ténèbres qui s'en viennent dans le royaume de la lumière. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu nous gardes toujours encouragés. Tu gardes la flamme de ton esprit brûlante, Seigneur Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci de nous garder toujours avec la vision du ciel. Seigneur, qu'on puisse avoir tes lunettes spirituelles, qu'on puisse avoir tes yeux, Seigneur, pour voir ce que toi tu veux faire. Seigneur, Seigneur, pour ceux qui ont eu une vision où les lunettes étaient trop sales pour voir la réalité, Seigneur, je prie que tu fasses un lavage spirituel de nos lunettes aujourd'hui. Seigneur, qu'on puisse voir le théâtre et qu'on puisse voir l'auditorium déjà rempli. Seigneur Dieu, souffle sur nous, Seigneur, fais comme tu as fait dans l'église du pasteur Cho et du pasteur Castellana, Seigneur, où les gens commençaient à voir comme toi tu voyais. Seigneur, empêche-nous d'être un empêchement, Seigneur Dieu, mais qu'on puisse être des partenaires véritables avec toi, qu'on puisse penser comme toi, qu'on puisse parler comme toi, qu'on puisse voir comme toi, Seigneur Jésus. Merci de souffler sur nous. Merci, Seigneur Dieu, de faire une révolution dans nos vies et à travers nos vies pour l'avancement de ton royaume dans cette place, ici à Granby, à Bromont et au Québec. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On peut donner une main d'applaudissement au Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, pour qu'est-ce que tu fais parmi nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va chanter peut-être un dernier chant de réjouissance ce matin. On saisit déjà la victoire. Amen. Et on quitte cette place full encouragée. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.